Voilà, on va ouvrir la parole. Ce que je vais vous dire ce matin est en relation avec le livre des Juges au chapitre 4. Mais nous gagnerons du temps en ne lisant pas le chapitre 4. Mais à la maison, vous pourrez le lire et le relire, le méditer, approfondir peut-être certaines choses que ne seront pas dites ce matin. Voilà. En fait, le livre des Juges nous parle d'une femme et d'un homme. Cette femme, c'est Déborah. Et Déborah a une particularité, puisque Déborah faisait partie des rares, et la seule, des juges, dans l'Ancien Testament. Et puis, le focus aussi est arrêté sur, particulièrement sur Déborah, mais aussi sur Barak. Barak. Et donc, ça peut être une chose étonnante de voir ici une femme comme étant juge, mais on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul homme qui soit cité dans l'exemple, par exemple, dans le chapitre 5 du livre des Juges, et celui-ci représente en fait toute la gent masculine, c'est le symbole de son époque, hésitation, vacillement, tâtonnement, renoncement, et je vais employer un gros mot, mais vous ne le répéterez pas, lâcheté. En fait, ici, symboliquement, Déborah représente les chrétiens qui, malgré les difficultés, sont engagés jusqu'au bout. Et Barak représente les chrétiens qui sont affaiblis, qui ne sont pas bien engagés, bien enracinés dans la personne du Seigneur. Et on va voir ensemble qu'en fait, Déborah, au lieu d'écraser Barak en montrant une certaine supériorité, eh bien, ne va surtout pas l'écraser. Et nous allons voir ensemble, en fait, que Déborah était une femme qui avait de grandes qualités. Et nous verrons surtout que Déborah n'était pas celle qui voulait prendre la place, eh bien, de Barak. Mais comme Barak était en faiblesse, comme Barak était peureux, comme Barak avait des difficultés, eh bien, nous verrons ensemble que Déborah a voulu, eh bien, aider, et c'est son seul désir. Et sa seule motivation, c'était l'amour pour sa nation. Nous faisons une première lecture dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 1er. Il est écrit « Les enfants d'Israël firent, et c'est malheureux de le dire, mais c'est écrit, encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Ehu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis quelques mois. 20 ans. La question que je me pose en vous lisant ce texte, c'est que est-ce qu'il a fallu attendre 20 ans pour qu'il commence à crier vers Dieu ? Je ne sais pas, mais vous savez, quand on est comme le peuple hébreu, il remonte au premier verset, s'il te plaît, quand il est écrit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ceci peut expliquer cela. La lâcheté masculine de Barak. Déborah va essayer de... Ça fait du bruit, hein, c'est normal, c'est la technique. C'est moi qui... Parce que ça fait du... Voilà. En fait, Déborah n'a aucune intention d'usurper le pouvoir, usurper sa place, pour prendre la place donc de Barak. Mais elle cherche à remplir le vide qui est temporaire, puisque à tout moment, elle est prête à s'effacer, à se retirer. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, donc on le verra, Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Il est écrit « Mais... » Je n'en trouve point. Dieu est en recherche encore aujourd'hui d'hommes et de femmes, non pas d'hommes et de femmes qui se rassemblent dans une église, mais d'hommes et de femmes. L'autre jour, je le disais, et je disais qu'on aime aller à beaucoup. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, d'aller à en Israël. J'ai eu l'occasion d'y aller deux fois. Plein de gens sont allés à Jérusalem, en Israël. Et c'est bon, même s'il faut se méfier un peu des traditions, en disant Jésus, il est mort ici, Jésus. Bon, ça après, ça fait beaucoup marcher le tourisme aussi. Est-ce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une certitude par rapport sur ce qui est dit parfois sur certaines choses. Mais malgré tout, c'est aller en Israël, c'est super. En plus, quand vous lisez la Bible, vous avez parfois des images qui vous reviennent. Quand vous parlez de la mer morte, vous parlez de Masada, tout ça, vous dites « Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça ». C'est super. Mais c'est un peu comme les chrétiens qui viennent à l'église. Aller en Israël, c'est pas le tout d'aller en Israël. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller au mont Golgotha. C'est un symbole que je suis en train de donner. Être chrétien, oui. Mais aller jusqu'au bout. Pas simplement se limiter à dire « je suis chrétien ». Comme ce couple-là de Cubains qui sont allés à Haïti, ils n'ont aucun confort, ils ne cherchent pas à avoir du confort. Ils payent le prix. Et en fait, nous sommes tous appelés. Et Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui accepteront de signer en bas de la page blanche. Mais non, Seigneur, j'accepte de signer la page. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, mes frères et sœurs, ni aux missionnaires. En fait, c'est pour chacune de nos vies. Nous sommes tous appelés à être recherchés par Dieu pour notre engagement avec lui. Aller à Golgotha, porter notre croix. Et c'est ce que Déborah a accepté de faire. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, verset 7, est écrit « Les chefs étaient sans force en Israël ». Sans force. Dans la parole de vie, il est écrit « Il n'y avait plus de chefs en Israël ». Nous comprenons maintenant pourquoi Déborah, qui avait cette relation avec Dieu, n'a pas voulu remplacer les hommes qui n'étaient plus capables. Mais il y avait un vide. Il fallait combler ce vide. Ces hommes étaient tétanisés par la peur. Et il est une réalité, frères et sœurs, que lorsque nous commettons des compromis, lorsque nous acceptons des compromis dans notre vie, je parle aux chrétiens, nous sentons nos forces diminuer. On n'a plus notre bonne conscience. Et nous savons qu'il nous faut régler les choses dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prier avec autorité, même si on attend que Dieu intervienne quand il voudra et à sa manière? Qu'est-ce qui fait qu'on est là en disant « Seigneur, je sais, je crois !» Par exemple, en disant ce genre de choses, qu'est-ce qui fait qu'on peut être ainsi, s'exprimer ainsi de tout notre cœur, de toutes nos forces? C'est parce qu'on marche avec Dieu. Et parce qu'on a notre cœur est clair. Notre cœur ne nous condamne pas. Oui, tu dis ça, va régler ton problème avec ta femme. Va demander pardon à ta femme avant. Va retrouver ton fils, va lui demander pardon. Va rendre la perceuse que tu as empruntée il y a déjà 6 mois. Enfin, t'as emprunté, c'est juste le vocabulaire qui change. Vous savez, quand on n'a pas bonne conscience, on n'est pas fort devant Dieu. On est tremblant. Et puis, on n'est pas sûr de son salut. Et puis, quand on parle de M. Poutine qui menace les gens de la bombe nucléaire, on se dit, si le Seigneur l'envoyait, si Poutine envoyait la bombe nucléaire, est-ce que je suis sauvé? Comprenez? On est sans force. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parmi les Hébreux, ces hommes, qui étaient sans force. Mais cette femme va nous montrer ce qu'est un chrétien. Bien sûr, nous le savons qu'à cette époque, nous n'appelions pas les gens chrétiens. Vous le savez aussi bien que moi. Mais c'est le type même du chrétien. Les qualités spirituelles de Déborah, nous les trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 5, au verset 7, quand il est écrit « Je me suis levée, moi, Déborah ». En fait, c'était une femme agissante. Une femme qui n'était pas là, apathique, qui était restée sans rien faire en disant « C'est pas mon problème, c'est pas moi, c'est... Voilà, il y en a d'autres. » C'est une femme qui avait à cœur, qui avait de l'énergie, qui était active. En fait, il nous faut retrouver de l'énergie. Il faut que nous soyons actifs dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Dieu, là où il nous a placés. Il y a des endroits où personne ne pourra aller à votre place. Je prends par exemple Yves. Je ne peux pas. J'aimerais. Ce n'est pas un appel parce que je sais que ce n'est pas possible. Hein, donc... J'aimerais, moi, aller dans la voiture du SAMU, là, aller en intervention, voir comment que ça se passe. Ah, oh, wow. Moi, j'aime bien, c'est action, réaction. Voilà. Aller avec eux sur des interventions. J'aimerais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Mais lui peut, parce que c'est son travail. Il y a peut-être un instituteur qui peut parler à une mère. Tout ça avec... avec, comment dirais-je, prudence. Parce qu'on n'a pas le droit, dans certains métiers, de parler du Seigneur, on le sait bien. Mais des fois, il y a des occasions qui peuvent permettre. Voilà. Et puis même sans parler, par notre façon d'être. Quand on voit, par exemple, le médecin, il arrive plein d'empathie, professionnel, mais avec cette compassion, tout ça. C'est autre chose que de dire « Bon, allez, vous avez mal ? Bon, c'est pas grave, c'est normal, vous avez une entorse. » Alors, franchement, bah oui, mais le gars là qui a une entorse, il ne sait pas que le médecin il vient de voir un pendu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Comprenez ? Mais quand le patient dit « Ah, oh, ben, elle était gentille, l'infirmière, et ceci, ce... » Et l'institut, « Oh, mon fils avait des problèmes à l'école. » Toujours là. Mais oui, mais parce que ce sont des chrétiens. Et donc... il faut avoir cette qualité, une foi agissante, pas simplement en parole, et parfois même, je dirais même mieux, sans parole. Il vaut mieux avoir des gens qui agissent plutôt que des gens qui parlent. Je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je connais quelqu'un, ça m'insupporte. Enfin, c'est pas ici, donc ça m'insupporte parce que la personne. Moi, je vais faire ça. Maintenant, je suis tellement habitué à entendre cette personne dire je vais faire ça. Je sais qu'elle ne va pas forcément le faire. Eh ben, même ça mérite, pour ne pas dire autre chose. Je suis très sobre en disant ça mérite. Mais non, parce que si on dit quelque chose, il faut le faire. Si on ne le fait pas, il faut donner la raison. Moi, si on s'engage à faire quelque chose, il faut le faire. Si on ne le fait pas, il faut avoir une raison de dire, ben voilà pourquoi je ne le fais pas. Je viens te chercher pour t'emmener à la gare. Ok, c'est super, j'ai trouvé quelqu'un. Et 2 heures avant, écoute, je ne peux pas, mais il y a une raison. La voiture en panne, ce n'est pas parce que j'ai plus envie de le faire, vous comprenez ? Donc le chrétien, c'est celui qui a une foi agissante. La motivation de Déborah, nous le trouvons dans le chapitre 5, verset 7, il est écrit « Je me suis levé comme une mère en Israël, comme une mère. » Sa motivation, c'était l'amour, la tendresse, la douceur, la patience. La bienveillance d'une mère qui cherche à protéger son enfant du danger, prête à se sacrifier pour son enfant, qui lui dira aussi les vérités. Comment parlons-nous de notre église ? Oh punaise, à Martigues ! Oh là, l'église, pouh ! J'aime pas, un milliard cette église. Et puis il y en a, disons, oh, la tête qu'ils ont. Oh ! Comment est-ce qu'on parle comme ça de notre église ? Bien sûr que l'église de Martigues n'est pas une église parfaite. Parce que nous sommes tous imparfaits. Mais est-ce qu'on est là pour relever notre Église ? Oh, l'Église, ça va, Marty ? Ça se passe bien ? Parce que il paraît que... Comment ça, il paraît ? Ben non, moi, ça se passe bien, je suis content. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait un brave frère, il m'a dit, ça va ? Il est venu, c'est sa femme, je crois, qui est venue voir ma femme en disant, ça va ? Parce qu'en disant, mais ça va, vous tenez le coup ? Ben... oui, enfin, ça c'est entre vous et moi. Hein. Le jour que le Seigneur nous demande de partir, je vous assurerai d'une chose, que je ne partirai pas avec la fleur au fusil en disant « Yes, wouh, libéré, on est libéré ». Non, pas du tout. Ce sera avec beaucoup de tristesse et de peine. Parce que Marty, bon, ça a marqué notre vie. Et c'est parler de l'Église, de notre Église. De nos frères, de nos sœurs. Bien sûr qu'il y a des gens qui... Mais en fait, on est tous pareils. On est différents, bien sûr, mais tous pareils, c'est-à-dire qu'on a tous des failles. Mais c'est de se dire, voilà, je me lève pour mon frère, pour ma sœur. Ah, la sœur, l'intempérament. Ouh ! Et je me lève pour elle, parce qu'elle a besoin. Je vais l'aider. Je vais l'accompagner. Je dis même des choses s'il y a besoin de lui dire, parce que c'est important. Dans 2 Corinthiens 11, 29, dans Parole de vie, il est écrit « Quand quelqu'un est faible, moi aussi je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. » Ah, le frère, il a chuté. Il a trompé sa femme. Ah ben, une plus. Ça nous met en joie. Moi, j'ai le souvenir d'un couple, lorsque j'étais pasteur à Alès. Un gentil petit couple, tout mignon, tous les deux. Il y avait 2 petits gamins. Alors, s'il vous plaît, je suis le seul à parler, parce que sinon, on ne va pas s'entendre. D'accord ? Donc, je disais, il y avait un couple avec 2 petits-enfants. Et puis, un jour, elle s'est occupée de sa collègue de travail qui avait fait une tentative de suicide, mais cette collègue de travail, elle avait un compagnon. Ben, la chrétienne, la brave chrétienne, ne s'est pas occupée simplement de la femme, elle s'est occupée aussi du mari. Ou c'est le mari qui s'est occupé d'elle, mais enfin, elle a accepté d'être pris en charge. En fait, vous avez compris, elle est partie pour le bonhomme, pour l'autre homme. Et quand vous voyez ce brave frère qui arrive avec ses 2 gamins, là, je vous assure, ça vous brise le cœur. Ça vous brise le cœur. Et mes frères et sœurs, eh bien, oui, on doit être touché, bouleversé, percuté quand on voit qu'il y a un frère, une sœur qui est en souffrance. Quand on voit un frère, une sœur qui pleure. Quand on a un frère, une sœur qui, eh bien, se lamente. Pas pour le plaisir de se lamenter, pour dire « tous les dimanches, j'ai quelque chose à dire, pour me faire remarquer », non. Mais parce que je souffre réellement. C'est important d'avoir ce cœur pour son Église. Ce cœur pour son Église. En fait, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, nous le savons. C'est mes frères, mes sœurs qui respirent comme moi, qui sont là. Des frères et des sœurs qui ont des failles. Et de se dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui serai peut-être leur soutien et demain, c'est peut-être eux qui seront mon soutien. 2 Corinthiens 5, 14 est écrit « Que l'amour de Christ nous presse ». Et en fait, Déborah, son cœur pressé, elle ne voulait pas prendre la place d'un homme. Elle voulait prendre la place parce qu'il y avait une place qui était vacante et personne ne voulait la prendre. Pas parce que « Non, non, frère, non, non, pas moi, non, non, vous savez, je ne suis pas capable. » Non, c'est parce qu'ils étaient incapables de la prendre parce qu'ils avaient peur. Déborah, une femme au cœur humble. Cette femme, je le disais, ne cherchait pas à prendre la place de qui que ce soit. Mais elle venait prendre la place parce que personne ne pouvait la prendre. Il y avait un combat à mener. Dans Juges 4, versets 8 à 9, il est écrit, Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire. De gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Cette femme est pleine de délicatesse, de bienveillance. Mais Barak, si je viens avec toi, les gens vont dire, ah, c'est parce que Déborah était avec nous. Donc la gloire, les gens disent, ouais, gloire à Déborah, bien sûr, elle travaille le Seigneur. Mais c'est grâce à Déborah et pas grâce à Barak. Et cette femme ne voulait pas de ça. Elle est bienveillante. Elle veille sur ces choses. 5-9. Il est écrit « Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Mon cœur est au chef d'Israël. » Mon cœur n'est pas pour me montrer. Déborah, c'était une femme active. Son nom signifie « abeille ». Quand on prend le temps de regarder les abeilles ou quand on s'y intéresse, on s'aperçoit d'une chose qu'il y a une discipline dans les colonies, C'est bien, vous suivez. Elles se caractérisent par leur discipline, par l'ordre, l'activité, par leur travail d'équipe et leur esprit défensif et offensif. Déborah a sa vie de piété. Juge 4:4, il est écrit. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, elle communiquait non sa pensée, mais la pensée de Dieu. Vous savez à quoi on reconnaît un vrai d'un faux prophète ? C'est simple. Un faux prophète, ce qu'il vous dira, enfin, quand on, pour reconnaître un faux d'un vrai prophète, voilà. Ce que le prophète vous dit, si ça arrive, c'est le vrai prophète. Si ça n'arrive pas, c'est le faux prophète. Les témoins de Jéhovah devraient se remettre en question quant à certaines choses. Ouvrez les yeux. Parce qu'il y a eu des prophéties, et moi, quand j'ai eu l'occasion de dire ces choses-là, on m'a dit en quelques mots, ce ne sont que des hommes. Oui, mais enfin, que des hommes. Mais les prophètes, ce sont des hommes. Mais s'ils m'annoncent des faussetés, des mensonges, mais ça montre combien on est à côté de la plaque. Et puis cette femme, donc, elle avait son époux, Lapidote. Lapidote signifie torche, flambeau. Combien on brûle, combien on brille, combien on éclaire ceux qui sont autour de nous. Quand on est près de Dieu, quand on veut avoir la pensée de Dieu et non pas sa propre pensée. Faisons attention lorsque nous parlons, frères et sœurs, aux uns et aux autres. Moi, des fois, il m'est arrivé de reprendre les gens quand j'ai entendu des bêtises. Selon la parole, les gens étaient à côté de la plaque. J'étais obligé de redire les choses. Parce que c'était grave. En fait, on conduit les gens à commettre des erreurs. Parce que les gens sont tellement convaincus que ce qu'ils disent, c'est vrai, sauf que ce n'est pas biblique. Et lorsqu'on veut être un homme, une femme de Dieu, on veut être un Déborah, une Déborah, eh bien, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Et pas dire ce qu'on a envie de dire parce que la personne a des beaux yeux ou parce que je ne sais quoi encore, parce qu'elle a un gros portefeuille, plein de sous dedans et peut-être un petit intérêt derrière. C'est malsain. La Bible, c'est la Bible. Et rien d'autre. Ce qui est étrange aussi, voyez-vous, enfin, ce qui est étrange, non, c'est pas étrange. C'est tout à fait dans l'équilibre, justement, parce que c'est conduit par Dieu. Lapidote, torche, flambeau, puisque c'est la définition de son nom, on n'entend pas parler de frustration de sa part. Pas de rivalité, d'infériorité pour le mari. Quand même, le chef de famille, c'est moi. Combien de fois dans des couples, il y a des frustrations ? Il y a des rivalités. Il y a l'esprit d'infériorité parce que ma femme sait mieux faire les choses que moi dans tel domaine. Ou parce que mon mari sait mieux faire. Et ça passe mieux dans le sens mon mari sait mieux faire que dans le sens de dire ma femme sait mieux faire. Vous avez compris ça ? Les hommes sont parfois frustrés et vivent mal la situation parce qu'ils vivent ils sont dans un esprit d'infériorité. Mais au lieu d'avoir un esprit d'infériorité, mais au contraire, il faut dire « Merci Seigneur, tu combles à mes besoins puisque j'ai des manques, j'ai des failles ici. » Alors plutôt de voir ça comme étant quelque chose d'une espèce de rivalité, eh bien, moi je connais quelqu'un, un couple. Le frère, il est gentil, il est tout doux, il fait pas de bruit. Et sa femme ne fait pas de bruit non plus. Mais sa femme, elle agit d'une manière où elle vient pallier aux besoins de son mari. Elle n'est pas là en train de dire « Bon, allez, hey Max, dépêche-toi, allez, hop !» Bon, hein. Vous savez les femmes qui portent le pantalon. Vous savez, dans ce passage avec Déborah, il y a tout un équilibre. Les femmes ont tellement été méprisées, humiliées. Elles ont tellement eu affaire à des goujats, à des hommes qui ont pris leur femme pour, comme ils n'ont jamais pu le faire avec leur mère, alors ils le font avec leur femme. « Oh, hé, mes chaussettes ! Et ma chemise, tu ne l'as pas repassée ? » Mais ma femme, ce n'est pas ma bonne. Hein. C'est mon aide, c'est mon soutien. Et que c'est beau, c'est plein d'équilibre une femme avec le mari. La femme, ça sera la seule qui sera capable de dire à son mari « Ah, mon chéri, j'aurais dit les choses différemment. » Seule la femme pourra dire à son mari « Là, c'est pas bien de t'énerver comme ça. » La femme apporte la tendresse. La femme apporte la douceur. La femme apporte l'équilibre dans le couple. Apporte l'amour dans le couple. Et apporte toute cette douceur. Ici, Déborah, elle apporte ces choses comme une mère, plein de bienveillance. Le vrai couple, selon Dieu, c'est la femme. Elle a été créée non pas pour devenir la bonne de son mari, non pas pour devenir le punch. J'espère qu'il n'y a aucun chrétien qui frappe sa femme ici. Hein. Non, non, mais je ne dis pas ça avec un léger sourire. Même pas, t'as de la chance que je suis... Mais ça, c'est de trop. J'espère qu'aucun chrétien ne dit un gros mot à sa femme. Parce que là, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Le chrétien, c'est celui qui doit aimer sa femme. C'est encore plus compliqué pour le chrétien. Je tiens à vous rappeler, frères et sœurs, que selon la parole, quand ça a toujours été quelque chose, un sujet de les femmes, hein. Quand il est écrit « Femme, soyez soumise à votre mari », mais ça n'a rien à voir avec, vous le savez, je l'ai eu l'occasion de le dire, c'est se mettre sous la protection de son mari. Mais les maris, regardez la charge qu'ils ont. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Posons-nous la question si j'aime ma femme, moi. Posez-vous la question, frère, si vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ma femme, je dois la respecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même dans la plus grande intimité, si vous voyez ce que je veux dire. La femme était représentée comme un objet sexuel. La femme est représentée comme un objet. Même à la télévision, vous regardez les femmes. Mais c'est ahurissant. C'est soutien-gorge, culotte, et puis voilà, je danse. En fait, elles l'ont entretenue aussi. Et ce n'est pas ça, la femme. La femme, c'est beau. La nature de la femme, c'est beau. Même une grand-mère, où eh bien, l'âge est passé, elle est pleine de rides, même la grand-mère, elle est belle. Parce qu'elle apporte aux petits-enfants et aux enfants. Une femme, c'est beau, une femme. Déjà toute petite, en voie de devenir une femme, on les voit, elles sont comme ça, elles sont coquettes. Non, je ne touche pas. Non, oh là, j'ai une tache. C'est plein de délicatesse. Vous voyez l'équilibre de Déborah ici ? Déborah est une femme qui ne cherche pas à prendre la place. Notre société a tellement méprisé, broyé les femmes en les rabaissant au plus bas, que des femmes ont quelque part se sont vengées, ont repris eh bien, une vengeance. Alors on les voit maintenant, moi je m'appelle Nathalie. Pardon Nathalie, elle n'est pas là ? Bon ça va. Ah bah elle est là-bas. Bon, bah tant pis, c'est jeté. Ben moi, je m'appelle Nathalie. Voilà, mais je suis marié avec Octave, avec Gustave. Ouais, ça se passe bien. Mais vous voyez ça ? Voilà des femmes qui prennent le dessus en prenant le pantalon, en disant « Bon, hé ! Hé, ceci, cela !» Mais même si le mari, il est faible. Le couple dont je vous parlais tout à l'heure, la femme a fait pas ça avec son mari. J'en suis convaincu. Mais elle vient pallier avec intelligence et amour. Mon mari n'est pas capable, donc je le fais pour lui. Et il y a un équilibre. Et mes frères et sœurs, donc, quand on est proche de Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on a le lapidote dans notre vie, parce qu'on est une Déborah, comprenez ce que je suis en train de dire. Un ou une Déborah, puisque c'est le type du Christ, je suis en train de parler, le type du chrétien engagé en Christ, eh bien forcément, nous éclairerons aussi ceux qui nous entourent. Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, devant n'importe qui. » Déborah, celle qui demeurait dans la présence de Dieu, Juges 4, 5, elle siégeait sous le palmier de Déborah, palmier qui est le symbole pour servir de comparaison pour la croissance du juste. Dans Psaume 92, 13, il est écrit « Les justes croissent comme le palmier ». Mais il représente aussi l'ombre, le palmier, le repos, la vigueur en milieu aride. Que nous soyons dans l'ombre de Dieu. Déborah siégeait entre Rama et Bethel. Rama signifie hauteur. Ça nous pousse à prendre de la hauteur de marcher avec Dieu. Ça nous pousse à grandir, à nous développer. Que nous puissions élever nos prières et nos cœurs vers Dieu. Bethel, maison de Dieu, donc de demeurer dans la présence de Dieu. Et Éphraïm veut dire doublement fécond. En fait, quand on marche avec Dieu, on prospère. Pas sur le plan des sous. Bien sûr, tant mieux si vous prospérez au niveau des sous. Mais ce n'est pas ça l'important. On peut être riche, mais être malheureux comme ses pieds. Mais prospérer, aujourd'hui, j'ai un petit peu de foi. Marcher avec Dieu, ça m'apprend. Dieu me fait faire des espérances. J'ai davantage de foi. Avant, j'ai jamais été baptisé du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné cette grâce. Et voilà, de grandir. Et c'est donc la source qui rendit Déborah forte, courageuse et entrepreneuse, et pleine de confiance, et ainsi lui donnant les qualités spirituelles qui firent d'elle une femme de Dieu qui devint juge. Et puis pour terminer avec notre ami Barak. Barak, l'homme à la fois hésitante. Quand il est écrit dans Juges 4, versets 6 à 8, il est écrit « Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes et enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, etc. etc. » Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai, mais... Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. La foi hésitante. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, Barak, accompagné de cette femme, ou plutôt dans la transmission. En fait, c'est toujours une question de transmission. On avait eu l'occasion d'en parler, j'en reparlerai certainement encore bientôt. Le fait de transmettre. Un chrétien, c'est celui qui transmet, c'est pas celui qui garde pour lui. Le but d'avoir de l'argent, si demain vous touchez un héritage, 10 000 euros ! Oh ! 10 000 euros ! Si vous le mettez sur votre compte si vous le mettez sur votre compte courant, ça n'apportera rien, hein. Mettez-le sur le livret A ou sur autre chose, j'en sais rien, moi. Enfin, et que ça puisse rapporter des petits. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, c'est pas pour le garder pour nous. Le cerisier donne des cerises, mais c'est pas pour lui-même. Il donne pour les oiseaux, pour le propriétaire aussi. Et au contact de cette femme, cet homme va grandir. Regardez comme c'est beau. Cette femme qui ne cherchera pas à prendre la place d'un homme parce qu'elle est pleine d'équilibre. Parce que cette femme, elle n'a pas besoin de ça. Marcher avec Dieu, ça lui suffit amplement. Elle ne cherche pas à s'accrocher à des trucs, des futilités. Vous regarderez dans Hébreux 11, verset 32. L'homme qui était peureux, l'homme qui n'avait pas de courage, se retrouve dans les héros de la foi. Pas Déborah. Mais plutôt, Barak se retrouve dans les héros de la foi. Alors qu'il avait tout le contraire. Un héros de la foi alors qu'il n'avait pas la foi, la confiance. Regardez comme c'est beau d'être au contact de frères et de sœurs qui marchent avec Dieu. On n'entendra peut-être jamais parler de vous, hein, dans le Pentecôte ou dans le petit journal, l'appel de la vie ou je ne sais quoi. Mais le fait d'être là, faisons pas les choses pour être vus. Ne faisons pas les choses pour que ça se sache en disant, t'as vu un peu le frère quand même. Tout le monde m'a vu ? Je suis beau, je brille ! Oui, vous êtes beau, vous brillez, d'accord. Votre récompense, vous l'aurez par les autres. Quel frère, quelle sœur ! Mais vous ne l'aurez pas au ciel, la récompense. Parce que vous l'aurez eu ici-bas. Faisons les choses non pas pour être vus, mais faisons les choses pour Dieu. Cette femme a tiré Barak sans même le vouloir. Elle n'a pas fait « Bon, Barak, écoute, assieds-toi, je vais te donner une petite leçon. » Alors, en tant que femme, en tant que prophétesse, bon, ne me coupe pas, tu écoutes. Voilà, première leçon, il faut que tu sois proche de Dieu, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu pries, mets-toi à l'ombre de Dieu, voilà. Et puis, tu seras comme moi, Tu seras comme moi. Cette femme, je ne suis même pas conscient qu'elle est... Je ne suis même pas sûr que cette femme ait eu conscience de donner une leçon à Barak. Mais cet homme va être... Et nous avons tous expérience... les uns des autres d'avoir eu des pasteurs, par exemple, ou même des frères âgés, des sœurs âgées, en disant, ils ont été des exemples pour moi. Moi, je me rappelle de ce pépé qui est mort. Je peux dire un pépé, parce que franchement, 104 ans, il est mort. À l'âge de 85 ans, je crois qu'il m'a dit, ou 95 ans, je ne sais plus, dans ces eaux-là, il m'a dit, j'ai commencé à me sentir fatigué. Mais c'était un homme, il prêchait de temps en temps comme un frère ancien, mais de temps en temps, mais ça faisait un moment qu'il ne prêchait plus. Hein. Mais ce frère, mais il me donnait des leçons, j'étais pasteur stagiaire. Pas pour me donner des leçons, il ne savait pas comme Déborah. Mais je voyais cet homme, vous voyez, ça fait pouf, je ne sais pas combien d'années, mais j'en parle encore aujourd'hui, parce que cet homme, voilà, c'était un exemple. Il priait, il intercédait. Voilà. Et puis, Barak n'était pas donc un foudre de guerre, mais il le deviendra. Et on sait tous que parfois dans les églises, on dit, oh, c'est chrétien, oui, mais c'est pas un foudre de guerre, le frère. Hein. C'est-à-dire que, pff, hein, il faut vraiment... Bien, regardez dans verset 15, au chapitre 14, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Barak va devenir un foudre de guerre, un homme de Dieu, parce qu'il était au contact de Déborah. Alors que le Seigneur, eh bien, nous aide à tous être des Déborah, frères et sœurs, pour que nous puissions communiquer sans le vouloir, par notre façon d'être, par notre vie, pas pour donner des leçons. Vous et moi, on n'a pas besoin de leçons. Quand on veut donner des leçons aux autres, les autres ne l'entendent pas. On n'est pas à l'école, on n'est pas des enfants. Voilà. Mais Dieu veut nous donner une leçon à travers la vie des uns et des autres. Que nous puissions être à l'écoute et dire, Seigneur, ben, continue à œuvrer. Pour que nous puissions à notre tour transmettre aux autres ce que Dieu nous a donné.